Par nos voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bonjour, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme il est de coutume, une fois par mois, nous recevons trois femmes journalistes de trois continents différents pour commenter l'actualité de leur choix. Ana Navarro Pedro, journaliste portugaise pour l'hebdomadaire Visão. Bom dia.
Bom dia.
Mira Kamdar, journaliste américaine, écrivaine, ancienne éditorialiste du New York Times. Morning, Mira.
Good morning.
Et une tchatcheuse guinéenne, Diretou Diallo, blogueuse et fondatrice du collectif guinéen du 21e siècle. Djarama Diritu.
Djarama.
Ah ben, c'est bien, je parle toutes les langues maintenant. Et moi, je vous dis bienvenue à toutes les trois en langue bambara au danser.
Merci,
c'est bien, madame. En fin d'émission, nous aurons un reportage de Raphaël Constant, portrait d'Edith Cloutier, directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or au Québec. Steven Jambo, journaliste à RFI, viendra nous parler du concours organisé par Mondoblog à l'occasion des 10 ans de la plateforme. Quant à vous, les voisins et les voisines, merci d'être toujours là et de nous écouter.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Faut tenir compte des voisins.
7 milliards, pour moi, c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
On commence déjà les tchatcheuses, on commence par un sujet qui est dans l'air du temps. Ana Navarro Pedro, vous revenez sur l'histoire du harcèlement de la journaliste Julie Eno. Elle est harcelée pour avoir publié il y a 2 ans dans un article des propos colonialistes entendus un soir dans un bar de Lyon.
Oui, tout à fait. Et je reviens là-dessus parce que l'affaire date de 2 ans, comme vous venez de le dire, parce que tout récemment, elle a donné une interview au site Combini News où elle parlait surtout de sa souffrance, de l'indifférence des gens et de l'impunité de ces harceleurs, des gens qui la prennent pour cible sur les réseaux sociaux. Et pourquoi elle parlait de cela? Parce qu'au bout de 2 ans de cette affaire, il y a eu juste, la justice a juste sévi une fois et d'une façon un peu douce, on va dire. Pour rappel, il y a 2 ans, donc, elle entre dans un bar à Lyon, une grande ville française, où elle fait des petits articles en freelance, en journaliste pigiste, sur les bars, sur les sorties, etc. Donc, vous voyez, comme elle-même le dit, je ne suis pas une journaliste d'investigation, je ne suis pas une grande pourfendeuse d'injustice dans le monde. Mais elle entre dans le bar, un nouveau bar à Rome, et elle entend des propos des propriétaires, mais horribles sur la colonisation, sur, en disant c'était le bon temps, c'était là, les gens savaient recevoir, on avait de bonnes manières. Elle est choquée et elle dit je vais faire un article sur ça.
Et en plus, ils ont accepté d'être enregistrés.
Voilà, elle leur dit je vais faire un article sur votre bar, mais je veux vous enregistrer, est-ce que vous acceptez? Ils ont accepté de répéter ça dans un micro, enregistré, en connaissance de cause. Elle fait son papier et elle met les propos, en plus en disant qu'elle avait été choquée de les entendre. Et là, c'est un déversement de haine suscité par les milieux néo-nazis sur les réseaux sociaux. Et elle demande, il y a des menaces de mort, il y a des insultes, mais ça va beaucoup de loin, des menaces de mort, des appels au viol, des menaces de viol, d'être frappée, battue, etc. Mais elle se sent suivie, mais elle ne sait pas si c'est vrai ou pas. Elle demande l'aide de la justice et elle trouve vraiment une oreille et une attention très diminuée auprès de la justice française. Finalement, on découvre que l'instigateur de cette vague est un type qui tient un site néo-nazi, suprémaciste blanc, avec vraiment pourfendeur de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le colonialisme ancien. Donc vraiment, le type apparemment se serait enfui au Japon, mais la justice française ne trouve même pas nécessaire
de le poursuivre,
d'essayer de l'écouter. Finalement, sera poursuivi un type qui a relayé les propos de
lui. Il a repris l'article.
Il a repris l'article. Il a lui-même ajouté une petite couche, une petite louche de sa propre invention. Eh bien, il sera poursuivi. Il sera condamné à 6 mois de prison avec sursis. Donc, rien ne se passera. Il reste quelque chose d'important de cette affaire. C'est que l'avocat de la journaliste a dit ce qui est important dans un cas de cyberharcèlement, c'est que finalement, si la justice sévit, on peut mettre un visage et une voix derrière des propos anonyme oui. sur le net. Et ça, c'est très important parce qu'on rend les gens responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils menacent, de ce qu'ils, des insultes qu'ils profèrent, des menaces qu'ils adressent à la personne et des violences verbales dont ils sont les auteurs.
Et dans le cas de cette journaliste, on voit plus que elle, sa souffrance est minimisée et plutôt les cyberharceleurs sont dans l'impunité.
Voilà, c'est ce qu'elle dit maintenant, c'est qu'au bout de 2 ans, et malgré cette condamnation, ma souffrance, mes peurs, la persécution, les choses horribles que je lis sur moi, sur Internet, pour, ne serait-ce que pour préparer son dossier de défense, elle dit, ça, la justice et le pouvoir public n'en tiennent absolument pas compte. Et c'est un problème, pour maintenant sortir de son cas et aller plus loin, c'est un problème de la France. La France, dans ces cas-là, n'a pas vraiment encore pris en compte...
La législation n'est pas beaucoup à point en France.
Ni la législation, ni la formation de la justice, ni la formation des policiers qui doivent faire respecter les lois. Et donc, effectivement, la France est beaucoup à la traîne si on compare, par exemple, avec d'autres pays de l'Union européenne. Elle est beaucoup à la traîne par rapport à la Finlande, à la Suède, où le problème a été pris à bras-le-corps. Et effectivement, il y a des lois. On fait une distinction entre le cyberharcèlement et le cyber, par exemple, la persécution cybernétique.
Avant d'arriver sur ces pays, en France, depuis 2014, le cyberharcèlement est considéré comme un délit. Et depuis 2016, les cyberharceleurs sont passibles d'1 an d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 euros d'amende. C'est très peu.
Tout à fait. Mais c'est là où c'est très peu. Et puis, la loi a été passée, mais les moyens n'ont pas été mis derrière la loi. Donc, la justice et la police n'ont pas été formés à faire appliquer cette loi comme il se doit. Et même cette loi par rapport à ce qui peut se passer dans notre pays est assez minime d'une certaine façon, mais c'est un bon début. Et donc la France se trouve dans la situation où je lisais par exemple les problèmes de cyberharcèlement pour les journalistes. Restons-en aux journalistes là maintenant, si vous voulez bien. Dans le reste du monde, Reporters sans frontières nous dit qu'effectivement c'est un problème vastissime aujourd'hui qui doit être pris à bras le corps parce que sinon il y a un problème pour la démocratie. Parce que les journalistes vont arriver à s'auto-censurer. Et à ne pas poursuivre leurs enquêtes ou à ne pas reporter les faits tels qu'ils sont.
Mais pour les journalistes, il y a eu un cas en France aussi l'année dernière de la journaliste d'Europe 1 et Arte Nadia Dam, voilà. qui a été victime aussi de cyberharceleurs, mais elle a déposé plainte immédiatement.
Et elle a pu se défendre. Et voyons les différences entre quelqu'un qui est très connu. Qui est dans un métier, qui est quand même dans des médias mainstream, et Julie Hainaut qui est à Lyon, qui est pigiste et qui n'a pas une grande média derrière elle pour la défendre. Donc voilà.
Et les autres tchatcheuses, qu'est-ce que vous pensez?
Non, mais justement, ce que j'allais dire, mais la loi est votée, mais est-ce qu'on va au bout du processus? Parce qu'aujourd'hui, on sait quand même que... est-ce qu'on va au bout du processus d'aller chercher ces gens où ils sont, dans les nids? Souvent, c'est des forums de jeux vidéo. On sait très bien où ils sont. Oui. Donc, on peut lancer des investigations. Donc, il ne suffit pas de voter la loi. Effectivement, il faut aller. Il faut donner les ressources pour pouvoir la concrétiser. On sait, d'une façon générale, la législation, et il faut la faire, mais elle est rarement suffisante, quoi. Parce que derrière, on n'a pas de levier pour faire pression.
Et ce genre de cas, c'est pas uniquement sur la journaliste. Hein. Le cas le plus récent, c'est l'adolescente Mila, voilà, qui a vu sur elle un déferlement de harcèlement jusqu'à sa déscolarisation. Mais ça, c'est un autre cas qui est très différent du cas de la journaliste.
Le cyberharcèlement des enfants et des adolescents, qui est gravissime et qui est aussi une autre affaire, un autre chapitre, et qui exige d'autres mesures encore.
Dirutu, est-ce qu'on peut rencontrer ce genre de cas en Guinée? Des cyberharcèlements.
Oh oui, mais en fait, en Guinée, d'ailleurs, quand il y a ce type de choses, les gens ne réalisent même pas qu'ils sont en train de harceler. C'est-à-dire, comme ils ne sont pas formés, ils ne sont pas sensibilisés à la notion de harcèlement. Donc, pour eux, c'est juste des provocations qu'on se lance de temps en temps. On crée de faux comptes, on suit les gens. Bien sûr, il y en a. Médiatisés, il n'y en a pas tant qui sont médiatisés parce que les victimes elles-mêmes n'ont pas conscience qu'elles sont harcelées. Donc, en général, elles se referment sur elles-mêmes. Elles font un repli. Donc, bon, non seulement on n'est pas éduqué à les accompagner lorsqu'elles sont dans ce type de problème, mais elles-mêmes, elles finissent par tomber en dépression.
Et là, il y a encore un travail de sensibilisation à faire sur ce qu'est le cyberharcèlement.
C'est clair. Et il y a eu une loi qui est passée récemment. Mais en fait, il faut faire attention parce que lorsqu'on veut lutter aussi contre le cyberharcèlement, parfois on me donne des billes au gouvernement de lancer une traque, voilà, sur les réseaux sociaux. Et voilà, récemment on a vu le cas de jeunes gens qui ont été on a utilisé des lois sur le cyberharcèlement pour les faire arrêter, ainsi de suite, enfin des lois sur le numérique pour les faire arrêter. Mira, donc faut trouver le juste équilibre, en fait.
Mira Kamdar, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce sujet?
Juste que c'est un problème mondial, hein, qui n'est pas limité ni à la France, ni en Guinée, ni à d'autres, les deux pays que je connais le mieux, donc les États-Unis, mon pays d'origine, et l'Inde, le pays dont je suis experte et sur lequel j'ai écrit plusieurs livres. C'est un problème très grave. Et là, le problème est quand même rendu plus grave encore par le fait que les gouvernements au pouvoir, autoritaires et d'extrême droite, participent eux-mêmes au harcèlement, notamment des journalistes, et donnent des signaux aux cyberharceleurs de feu vert. Et donc, c'est très, très difficile de poursuivre les cyberharceleurs dans un contexte où le gouvernement et la justice n'est pas sur la même page, quoi.
C'est un sujet vaste, on pourrait en discuter pendant une heure, même plus, mais voilà, on passe à d'autres sujets maintenant. Diretou Diallo, vous voulez revenir sur cette histoire de racisme, dirait-on. L'activiste ougandaise contre le réchauffement climatique, Vanessa Nakate, rognée d'une photo de groupe prise avec d'autres activistes comme Greta Thunberg.
Effectivement, et j'aimerais commencer en me demandant, est-ce qu'on peut être trop noir pour lutter contre le changement climatique? Mais c'est vrai, ça fait rire, mais est-ce qu'on peut être noir pour être une activiste? Est-ce qu'on peut être trop noir pour être féministe, ainsi de suite?
Pour être mise en évidence.
Pour être exposée, en fait, en un mot. Parce que cette militante, justement, ougandaise Vanessa Nakate, 23 ans, présente au Forum économique de Davos le 24 janvier en Suisse, a été au cœur de cette polémique. Elle proteste, parce qu'il faut rappeler qu'elle proteste seule dans son pays, elle est courageuse, d'autant plus qu'en Ouganda, la grève est illégale. Elle est fondatrice du mouvement Rise Up. Donc, elle est recadrée sur cette photo où l'agence en question, l'agence Associated Press, a laissé paraître donc Greta Thunberg, donc que des blancs, donc que des activistes blancs. Greta
Elle était la seule noire, africaine noire sur la photo.
Sur la photo. Donc c'est assez incompréhensible, c'est assez inacceptable. Et le média lui répond qu'ils l'ont recadrée pour des raisons de composition, car le bâtiment qui était derrière Vanessa, apparemment, pourrait distraire les gens. Mais pour moi, c'est une explication peu convaincante, encore une fois, qui m'amène logiquement à me demander, est-ce qu'il aurait été si prompt à recadrer la photo si l'activiste était blanche? Est-ce que le bâtiment aurait posé problème si l'activiste était blanche? Et Vanessa, heureusement, a été soutenue sur les réseaux sociaux.
Oui, elle a reçu le soutien de Greta Thunberg,
Thunberg. Donc, elle a lancé, suite à cette affaire, il y a le hashtag You can't erase mélanine. Vous ne pouvez pas effacer la mélanine qui a été lancée pour la soutenir. Donc voilà, aujourd'hui, enfin, si on peut sortir quelque chose de positif de ce drame, c'est de voir à quel point les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui des plateformes, des canaux pour mettre en évidence les injustices. J'espère, en tout cas, c'est un vœu pieux que, in fine, ils parviennent, enfin, que grâce aux réseaux sociaux, on puisse démanteler toutes ces choses-là. Mais c'est un vœu pieux. J'ai bien conscience que
ce ne sera pas demain. D'un jour.
Gagner demain, c'est sûr.
Mira Kamdar, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce sujet? Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu cette histoire?
En fait, on n'en aurait rien su si, justement, immédiatement sur les réseaux
sociaux,
elle
n'avait pas réagi,
on
Vanessa
n'avait
Nakate.
Pas affiché la photo dans son intégralité. On n'aurait rien su, on n'aurait pas su que cette jeune militante ne figurait pas dans la photo. Et c'est sûr que si c'était Greta Thunberg devant l'immeuble n'aurait absolument pas posé problème dans la composition de la photo.
Elle ne serait pas du tout rognée de la photo.
Cet argument-là, voilà. Non, mais c'est ce qui ressort de cette histoire, c'est non seulement une sorte de racisme tellement inconscient et institutionnalisé que les gens ne se rendent même pas compte qu'en faisant ça, voilà, ils doivent se poser des questions. Mais aussi, c'est pour moi l'occultation des efforts du militantisme environnemental et contre le changement climatique dans ce qu'on pourrait appeler le tiers-monde, les régions justement qui sont le plus touchées en première ligne par ce changement.
Et dans le siège,
il y a quand même des militants engagés dans ces questions. environnementaux et du changement climatique dans ces pays-là. Et leurs efforts sont souvent, non seulement l'image de leur personne, mais leurs efforts sont souvent occultés de toute discussion.
Oui, il y a des gens qui ont réagi par rapport pour dire qu'il y a des grandes rencontres internationales. Les militantes noires sont tout le temps occultées, leurs voix sont occultées, on ne les entend pas.
C'est ça, hein, c'est l'invisibilisation en fait, au final de ces minorités raciales. Et surtout quand on sait que l'Afrique est quand même aujourd'hui un continent bon élève en termes d'émissions de CO2. Voilà. Quoi. C'est assez impressionnant
par rapport à d'autres continents. Et c'est le continent qui a le plus de conséquences.
Et c'est le continent sur lequel vraiment on est en avant-première pour subir les conséquences. Donc c'est assez dramatique qu'on en arrive là. Voilà.
Navarro,
ça nous interpelle aussi pour aller plus loin et pour rebondir sur tout ce qui a été dit. On parle de l'intelligence artificielle, des moteurs de recherche, etc., qui seraient biaisés, qui auraient des préjugés raciaux, racistes, parfois sexistes, etc., homophobes. Et on se demande pourquoi, mais parce qu'il y a des gens qui derrière programment, qui font la programmation
des algorithmes.
Des algorithmes qui constituent les algorithmes et qui vont projeter dans ces algorithmes leurs propres biais, leurs propres racismes ou leurs propres préjugés inconscients. Parce que ce n'est pas consciemment que c'est fait, ils s'en défendent et on veut bien les croire, mais on voit là un miroir de comment on a été façonné. Et donc,
c'est une construction sociale.
Une construction sociale et il faut une plus grande diversité dans l'embauche et dans les milieux socio-professionnels.
Et reconnaître que le racisme existe. Que voilà. Le racisme systémique existe, que le racisme d'État existe.
Voilà. Mira Kamdar, en Inde, on reste dans le sillage des militantes. En Inde, deux étudiantes se sont interposées entre la police et l'un de leurs camarades étudiants qui était en train d'être violenté lors d'une manifestation.
Oui, donc je vais donner un peu de contexte que donc depuis la réélection du Premier ministre Narendra Modi l'année dernière, son gouvernement a accéléré la mise en place de la transformation de l'Inde laïque, la République de l'Inde laïque, en un État hindouiste nationaliste. Et notamment avec une série de projets de loi et de mesures, dont un amendement à la Constitution qui s'appelle le Citizen Amendment Act, qui conférerait le statut de réfugié à certaines personnes des pays avoisinants, à condition que ces personnes ne soient pas musulmans. Après, il y a le NPR, National Population Registry, qui a été mis en place dans l'Assam, mais dont le gouvernement promet de le dérouler au niveau national, qui serait un programme pour déterminer qui est et qui n'est pas un citoyen indien. Et ce sont aux citoyens d'offrir les preuves de leur citoyenneté, acte de naissance ou autre, sachant que la plupart des Indiens, notamment pauvres, n'ont absolument pas ces documents. Et là aussi, ce sont les musulmans qui sont visés. Il y a presque 2 millions de personnes qui ont été destituées de leur nationalité dans l'Assam. Et ils sont en train de construire des camps de détention. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà construits, dans lesquels on met des gens donc destitués de leur nationalité. Cela tombe sur la minorité musulmane. Après, il y a eu la révocation du statut exceptionnel de l'État de Jammu et Cachemire, la coupure complète de l'Internet au Cachemire et la détention des élus des grands partis, des partis mainstream de cet État.
Alors, et des tout manifestations.
Ça, voilà, il y a eu des manifestations qui sont enfin, c'était la goutte qui a fait déborder le vase le 15 décembre dernier, après que la police de Delhi, qui est aux ordres directs du ministre de l'Intérieur, Amit Shah, qui est vraiment un des moteurs de cette transformation que je viens de décrire, a attaqué violemment deux universités de premier niveau, Jawaharlal Nehru University et Jamia Millia University. Et beaucoup d'étudiants qui ont été blessés, même de façon grave, dont une militante la présidente du syndicat des étudiants à JNU, Aïcha Ghosh, qui a été grièvement blessée à la tête. Ce qu'on voit dans la vidéo qui est devenue, comme on dit, virale sur les médias sociaux, de l'intervention de ces deux filles, c'est donc lors de cette attaque de la police à Jamia Millia University, où ils s'en prennent à un étudiant qui ne fait absolument rien, qui est là, voilà.
Qui était quasiment
et commence
terre,
à le tabasser avec de longs bâtons, comme fait la police en Inde. Il y a trois jeunes étudiantes pas du tout armés, rien pour se défendre que leur corps, qui se sont interposés et qui ont fait raison à la police.
Hein, et c'est leur, c'est leur courage qui vous a touché.
C'est cette courage de ces jeunes femmes qui non seulement m'a touchée, a touché vraiment beaucoup de personnes et qui est devenue emblématique de la courage des femmes qui se montrent vraiment en première ligne pour résister à cette transformation et cette, on peut dire, démonisation de la population musulmane, qui compte presque 200 millions de personnes quand même, dont les femmes, notamment les dadis, les grandes-mères, qui depuis le 15 décembre font un sit-in gigantesque,
oui,
à Shahin
voilà,
Bagh.
Le prochain sujet, d'accord, à ces femmes qui ont décidé de se mobiliser également.
Exactement, font partie quand même d'un militantisme des femmes indiennes, qui, surtout des femmes qui disent « basta, ça suffit ».
Et vous, Anna Maro-Pedro, ça vous inspire quoi de voir cette mobilisation des femmes indiennes?
Mais il n'y a pas que pour cela. Là, vraiment, le cas est très représentatif parce qu'elles prennent des coups. Elles sont toutes minces, ces jeunes femmes. Mmh. Hein, elles sont toutes frêles, hein, face à ces bâtons, etc. Et elles s'interposent. Elles n'ont pas peur ni des coups, de la violence, de la douleur. Elles n'ont pas peur non plus des conséquences. Elles peuvent être amenées au poste et vous savez ce que ça veut dire ensuite. Donc, effectivement, c'est... Mais, on voit toutes ces femmes qui, partout dans le monde, se rebellent aujourd'hui contre des situations d'injustice, de soumission, il me manque un mot là, mais elles sont vraiment en première ligne, ce sera contre le viol. En Inde, ce sont des femmes aussi qui sont en première ligne. Au Chili, dans des manifestations où les populations se sentent oppressées par des mesures économiques, sociales, qui on n'en peuvent plus, ou les populations n'en peuvent plus, c'est les femmes qu'on
trouve
aussi en première ligne.
Elles ont décidé de dire non, ça suffit.
Elles disent non, ça suffit, elles n'ont pas peur ni de la violence physique, ni des coups qu'elles prennent, ni de s'affirmer, ni des conséquences judiciaires ensuite.
Et c'est une bouffée d'air.
Et c'est une bouffée d'air, et on pense à Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Et on reste avec vous, Anna Navarro-Pedro, pour parler du décès le 24 janvier dernier de Leila Jana, une bonne samaritaine qui voulait lutter contre la pauvreté via le digital.
Et oui, c'est une femme américaine, 37 ans. Elle est décédée à 37 ans tout récemment d'un cancer très rare, hélas, comme pour n'importe qui très jeune. Mais bon, dans son cas, c'est encore particulièrement plus douloureux. Ses parents ont immigré de l'Inde, justement, aux États-Unis. Elle a connu la grande pauvreté dans son enfance, donc elle sait très bien de quoi elle parle. Mais évidemment, même pauvres aux États-Unis, ils ont eu d'autres chances d'étudier. Elle a réussi à aller jusqu'à Harvard. Et très vite, elle s'est consacrée à l'étude de la grande pauvreté du monde et la façon dont elle était traitée. Et grosso modo, c'est l'histoire d'apporter un sac de riz à des gens qui ont faim. C'est très bien, mais leur créer des fermes où ils peuvent produire du riz et avoir un emploi digne et faire leur propre avenir, c'est beaucoup mieux.
C'était ça sa philosophie, donner du travail que de donner de l'argent.
Voilà, donner du travail... rémunérée, évidemment, mais donc on ne donne pas, on ne fait pas l'aumône, on ne fait pas de l'humanitaire. L'humanitaire est tout autre chose. Et pour cela, elle est entrée dans un créneau un peu business de l'humanitaire qui, par exemple, est très mal vu en France. Mais elle a créé une start-up.
Pourquoi c'est très mal vu, c'est...
Je vous dirai après, si vous voulez bien. Mais elle a créé une start-up, Samasource. Et Samasource, qu'est-ce qu'elle fait au départ? Elle recueille des fonds auprès des organisations. Elle demande des levées de fonds pour créer des emplois. Elle commence au Kenya, mais plus tard, elle ira dans d'autres pays en Afrique et en Inde. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ils sont des pays où des gens qui sont en train de gagner 1 euro par jour, 1 dollar par jour en faisant des boulots pas intéressants, ils peuvent travailler dans le digital, ils peuvent recueillir des données. Je vais leur donner une formation pour recueillir les données et saisir les données nécessaires à l'intelligence artificielle. Et ensuite, le produit de leur travail, je vais le vendre à des grandes entreprises. Et elle les a vendus notamment à Google ou à Microsoft.
Les entreprises qui refusaient de l'aider au départ, aujourd'hui, sont devenues ses clients.
Exactement, sont devenues ses clients. Ils n'ont pas donné de fonds au départ. Elle paye des salaires qui sont, Samasource paye des salaires qui sont convenables, qui sont dignes pour les gens employés, que ce soit au Kenya, au Ouganda, Nigeria ou en Inde, etc. Elle en a employé jusqu'à 11 000 personnes et donc a impacté la vie de 50 000 personnes parce qu'un fournisseur, quelqu'un qui gagne oui. sa vie peut nourrir une famille ensuite et peut pourvoir aux besoins d'une famille. Et elle a créé une autre entreprise qui
était cosmétique,
Luxme. Et alors, c'est là, elle a utilisé vraiment une main d'œuvre qui n'est pas formée, qui n'est pas alphabétisée, mais qui pour recueillir des noix de karité dans la vallée du Nil, surtout en Ouganda. Et puis ensuite, payer très correctement, commerce équitable, biologique. Et puis, elle vend dans le luxe, vraiment dans un créneau de luxe, ce beurre de karité. Et elle dit, et là, c'est vraiment une entreprise qui paye. Et puis, troisièmement, aux États-Unis, elle crée Sama School, qui est une entreprise qui va former des gens à la nouvelle économie et qui va, et là, aucune ressource vraiment. Ce sont les autres entreprises qui permettent à cette deuxième de vivre pour former des gens à la nouvelle économie et les sortir de l'emploi ou d'une grande détresse financière. Donc, c'est vraiment un nouvel abordage,
c'est un nouveau créneau. C'est un parcours assez
C'est ce que je me disais tout à l'heure, que la question de l'empowerment est capitale, ce que on travaille dans l'humanitaire, aider les gens à se passer de nous, c'est quand même l'objectif que devraient avoir les humanitaires, quoi, les organisations humanitaires. Donc un parcours à féliciter, donc en espérant
et qui est mort très jeune, à 37 ans.
En plus, oui, qui est assez dommage, mais c'est la vie, quoi.
Mira.
Non, mais c'est tragique, sa mort quand même prématurée. Mais c'est non seulement donner du travail dignement payé, mais c'est remettre entre les mains des gens des moyens de production. Voilà. Le contrôle sur leur vie.
Produire leur propre riz. Voilà. Produire des éléments qui sont utiles à des grandes entreprises.
Et se créer des revenus.
Exactement. Mmh. Et donc, leur accorder une certaine indépendance. Just talk, can we just talk about where we're going before we get lost? Let me out thoughts, can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wantin' more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Before we get lost, let me out thoughts. Can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Pair out a few, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about it? If I'm moving too far, can we just talk?
Et c'est cette chanson de Khalid, la chanson qui est intitulée Talk, qui nous accompagne sur ce plateau de débat des tchatcheuses. Et Diretou Diallo, on vous retrouve pour parler des comptes Instagram qui veulent vendre la destination Afrique. C'est quoi ces comptes?
Alors, je vais vous en parler. Photos polissées, filtrées, nuages de hashtags. Il y a plus en plus de comptes. Il y a plus en plus de comptes aujourd'hui qui se donnent pour objectif de vendre la destination Afrique. Et ce, à travers différents chemins empruntés. Quand certains se focalisent sur le culinaire, d'autres mettent mettent en valeur tout ce qui est le handmade, tout ce qui est artisanat. Certains proposent de mettre, de faire découvrir des lieux à visiter insoupçonnés que même les locaux ne connaissent pas. Wow. Donc ces comptes sont suivis par de nombreuses personnes. Ils représentent aujourd'hui une belle porte d'entrée pour se préparer avant d'aller sur le continent.
C'est vrai,
ça ? Oui, en tout cas pour la partie ludique. Inspiré par de gros comptes certifiés tels que Visit Dubaï, qui possède quand même 1,7 million d'abonnés, Visit Singapour, 434 000 abonnés, ou encore Visit London, 858 000 abonnés, les pages africaines se rattrapent avec plus d'une vingtaine de pays déjà représentés sur la plateforme de photos et vidéos
et
Instagram.
Et ces pays, c'est quoi ces pays par exemple ?
J'en viens, c'était mon prochain sujet. Donc, si on prend Visit Morocco, qui totalise 53 000 abonnés, visiter le Togo, 37 000 abonnés, visiter le Mali, 13 000 abonnés, visiter la Guinée, 42 000 abonnés, ou encore Visit South Africa. 55 000 abonnés sont parmi les pages les plus dynamiques. Sans oublier la page Visiter l'Afrique, hein, oui, qui est assez connue, qui totalise, elle, 304 000 abonnés et se propose de fédérer les pays à travers son contenu. On en sait peu finalement sur ceux qui les initient. Les profils vont de simples citoyens lambda voulant casser des préjugés entourant leur pays, ce qui serait donc une forme d'activisme géographique, à des agences de voyage et même des ministères de tourisme qui voient en Instagram un canal efficace de branding de leur pays. Un canal efficace et pas cher finalement, parce que Instagram ne coûte pas grand-chose, en tout cas lorsqu'on décide de ne pas booster la page à travers des campagnes. Donc moi, j'ai contacté l'initiatrice de Visiter la Guinée, hein, qui est Adiatou Baldé, et sa collègue Oumou Diallo, pour lui demander un petit peu qu'est-ce qui l'a motivée à lancer ce type de page. Donc elle me disait que elle, enfin ce qui l'intéressait, c'était de faire renouer la diaspora avec son pays d'origine, mais aussi d'aider les locaux à découvrir donc des richesses inexploitées de leur territoire. La question qui vient spontanément, c'est de savoir comment ces pages parviennent à se rentabiliser. Est-ce que c'est efficace? Bah, je pense plutôt oui, parce qu'en fait, donc plusieurs blogueurs se lancent dans ces challenges, donc de découvrir ces pays qui sont représentés dans les pages. Donc ça marche. C'est difficile à quantifier, mais en général ça marche. Et bon, t'as de plus en plus de personnes aujourd'hui qui voyagent, qui contactent ces pages-là en disant relayez mon contenu, j'étais là. Donc t'as des personnes qui voyagent exprès juste pour être affichées sur ces pages-là.
Est-ce que non plus cette démarche n'est pas une façon pour ces créateurs de ces comptes d'avoir du contenu de publicité aussi?
Oui, donc j'en venais donc
de mettre en avant des marques.
Alors moi, donc comme je discutais avec Adiatou, donc je lui dis, est-ce que pour elle vraiment ces pages-là sont aujourd'hui assez crédibles pour initier des partenariats rémunérés avec les grandes marques? Donc elle, de toute façon, c'est pas un secret, hein, elles font des placements de produits, alors dans le cas de Visiter la Guinée, elles lancent des événements ponctuels, elles font des campagnes de crowdfunding apparemment pour aider, elles font un peu de mécénat, donc avec l'argent qu'elles récoltent et tout. Donc bien sûr, il y a du placement de produits, c'est l'objectif, oui, aussi.
Comme beaucoup d'Instagrammeurs et d'Instagrammeuses.
Et de blogueurs, il faut le dire.
Et les pouvoirs publics réagissent comment? Est-ce qu'ils interfèrent? Est-ce qu'ils essaient de contrôler?
Pour certains, je sais que dans certains pays comme justement le Rwanda, donc eux, ils ont pris le taureau par les cornes, en faisant en sorte que le Rwanda soit vraiment une destination africaine touristique. En tout cas, on peut dire que ces pages ont beaucoup d'avenir devant elles. Le seul problème, si on peut appeler ça problème, c'est qu'elles sont quand même assez, elles dépendent assez des algorithmes de Facebook et d'Instagram. Oui. Donc, si demain Facebook dit j'en ai marre, je modifie mon algorithme, le contenu peut baisser. C'est assez compliqué. Mais c'est la mode et apparemment elle plaît. Et moi, j'aime bien en tout cas suivre ce genre de pages. Il y a de très belles photos.
Et Mira et Anna Navarro, Pedro, vous avez parfois recours à ce genre de compte pour choisir les destinations?
Pas vraiment, non. Mais je pense que j'ai toujours une démarche journalistique dans le choix des choses, donc des destinations, des voyages. Donc,
des formations professionnelles.
Oui, des formations professionnelles, c'est sûr. Mais je me demande, dans ces pages-là, est-ce qu'il y a quand même... j'en ai regardé certaines. C'est quand même très belle. C'est une très belle façade. Est-ce que ce n'est pas un village Potemkin quand même? C'est-à-dire une très belle façade et on essaie de donner une image
qui n'est
pas...
C'est vrai.
C'est de la publicité, en fait.
Et on peut questionner l'authenticité, la sincérité.
Si on trouve les mêmes choses sur place, sur les photos.
Non, c'est assez vrai. Mais en même temps, si on questionne Instagram et les pages, pourquoi ne pas questionner un spot télévisé? Pourquoi ne pas questionner un
affiche? C'est de la publicité, d'une autre façon.
D'une autre façon, en fait. Donc, au final, c'est les aléas de la publicité, c'est les risques.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh bien, tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins, entre nous là, entre les voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Alors, chère tchatcheuse, on va écouter un reportage tout à l'heure. Il s'agit d'une dame qui a eu son adolescence dans les années 80 et le racisme inhérent à la loi sur les Indiens et le climat discriminatoire en son temps rendait ses origines difficiles à accepter. Aujourd'hui, elle porte fièrement son héritage Anishinaabe et participe au mieux-être des femmes autochtones marginalisées au Québec. C'est d'ailleurs dans son centre que des femmes autochtones ont révélé publiquement les abus dont elles étaient victimes de la part de la police, des témoignages entendus jusqu'au Parlement du Québec. La commission appelée « Viens sur les relations avec les autochtones » a été créée dans la foulée et a récemment publié ses conclusions sur le sujet. Raphaël Constant a rencontré cette dame pour nous.
Je suis Anishinaabe, qui est une Première Nation au Québec de par ma mère, qui a marié un Québécois, donc mon père. J'ai grandi dans une région qui s'appelle l'Abitibi-Témiscamingue, qui est un territoire traditionnel Anishinaabe que les populations autochtones ont occupé depuis des millénaires. Donc, je suis ancrée sur la terre de mes ancêtres depuis ma naissance.
Et comment s'est passée justement cette enfance?
Avant 1985, il y a la loi sur les Indiens, donc, qui régit la vie des Autochtones au Canada, qui est toujours en vigueur, qui est une loi qui date de 1876. Donc, dans cette loi-là, les femmes qui mariaient un non-Autochtone perdaient son identité et ce qu'on appelle le statut indien à l'époque. Et donc, ma mère a été une de ces femmes, a perdu son statut et la loi prévoyait à cette époque que les enfants aussi perdaient le statut. Toutefois, j'ai grandi avec ma famille élargie du côté de ma mère, donc j'ai grandi dans ma culture autochtone. À travers ça, j'ai toujours compris d'où je venais, qui j'étais. Et ma mère a milité pour changer la loi sur les Indiens. Donc oui, je me souviens de ma famille qui avait des affiches et qui allait militer devant le Parlement canadien pour que cette loi soit changée. En 1995, grâce au mouvement des femmes autochtones au Canada, cette loi a été changée. Donc, j'ai grandi dans un univers de militantes, de femmes qui allaient au front pour revendiquer des droits pour les femmes autochtones. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve au cœur d'un mouvement qui est le mouvement des centres d'amitié autochtone.
Il faut spécifier pour bien se rendre compte qu'aujourd'hui, 1% de la population du Québec est autochtone.
Dans ce 1%, la moitié de ces membres des Premières Nations vivent à l'extérieur des réserves indiennes, donc dans les villes du Québec. Parce que les réserves indiennes est encore une fois une création de la loi sur les Indiens où on dit parquer les Autochtones dans des parcelles de terrain, de territoire. Vous savez, être autochtone et grandir en ville ou être d'une communauté et fréquenter la ville, la première chose qui frappe, c'est la discrimination, le racisme. Au Québec, au Canada, malheureusement, les peuples autochtones sont souvent discriminés parce qu'on ne connaît pas l'histoire des peuples autochtones. Exemple, la difficulté pour des familles autochtones de se loger dans les villes parce qu'on a ces préjugés qui sont véhiculés sur les Autochtones, qui ne sont pas travaillants, qu'ils ont des problématiques sociales, de violence, d'alcool, de drogue, alors que c'est l'histoire de la colonisation et de ses effets intergénérationnels, de la loi sur les Indiens qui a maintenu les Autochtones à l'écart de la société de façon volontaire. Et on a fait ces choix politiques de construire des pensionnats indiens. Les enfants autochtones étaient arrachés de leur famille pour être mis dans des pensionnats indiens. On disait, le premier ministre de l'époque avait dit, on doit tuer l'Indien dans l'enfant. Alors, on a été déracinés, dépossédés de nos terres, dépossédés de notre langue, dépossédés de notre culture. Au Canada, on parle d'un génocide culturel des peuples autochtones qui a été largement documenté.
Et dans votre construction d'enfants et puis de jeunes femmes, comment vous avez compris cette différence?
Bien, moi, tout jeune, j'ai pensé que je devais faire un choix entre être Anishinaabe, donc être autochtone, ou être québécoise, en pensant qu'il y avait une culture peut-être qui était plus à privilégier, parce que la culture dominante, la culture québécoise, fait qu'on peut passer inaperçu. Ça a été difficile dans mon enfance, puisque je voyais ma mère qui avait les traits amérindiens prononcés, où je me souviens, jeune, que j'avais honte de marcher aux côtés de ma mère, de peur qu'on m'identifie comme autochtone. Bon, aujourd'hui, je regarde en arrière, puis moi-même, j'ai eu honte de mon comportement. Mais de réaliser que maintenant, on peut vivre avec la richesse des deux cultures et en faire quelque chose de positif, en ce sens où, à travers le mouvement des centres d'amitié autochtone, je suis capable de travailler au rapprochement entre les peuples et de favoriser le dialogue, l'ouverture entre autochtones et non-autochtones.
Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce centre? Qu'est-ce que vous y faites et comment vous arrivez à reconnecter justement avec votre héritage?
Bien, les centres d'amitié autochtone, c'est un mouvement. On a tous la même mission, qui est d'améliorer la qualité de vie des autochtones dans les villes en offrant des services, donc la lutte contre le racisme et la discrimination. On fait vivre la langue, la culture, les traditions, qui sont nombreuses parce qu'il n'y a pas un seul peuple autochtone. C'est vraiment plusieurs nations. On travaille notamment à redonner une justice à des femmes dont les droits ont été lésés. À Val-d'Or, en 2015, un groupe de femmes autochtones se sont présentées au centre d'amitié pour dénoncer des abus physiques, des abus sexuels perpétrés à leur égard par des policiers. Comme directrice générale, j'ai accompagné ces femmes-là dans le processus de dénonciation qui a été mis de l'avant dans une émission à la télé nationale. Alors ça, on s'attaque aussi à tout un système et leur courage, parce que c'est comme ça qu'on voit la capacité, la résilience de ces femmes-là, a mené donc à une vaste commission d'enquête québécoise sur la relation entre les autorités policières et d'autres services publics et les Autochtones. Donc, elles sont à l'origine d'une grande transformation sociale qui est à l'œuvre maintenant au Québec.
Anna Navarro-Pedro, j'ai vu que vous étiez très attentive à ce reportage.
Très, parce que dans deux des trois grands pays de l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, on parle souvent du statut des autochtones aux États-Unis. C'est souvent pointé du doigt la façon dont les autochtones et les Indiens ont été parqués dans des réserves, dont ils ont été massacrés, dont ils ont été niés un avenir dans un pays qui a été une terre qui était la leur et qui a été colonisée et que leur a été prise. Mais pour le Canada, dans beaucoup de choses, est toujours le pendant opposé des États-Unis, toujours le bon pays, le pays sympa, où tout
le
se
bon
passe
élève.
Bien, le bon élève. Et puis tout d'un coup, là, on voit avec cet exemple, ce reportage qui est très, très important, que le même mécanisme de la colonisation sont à l'œuvre au Canada, que la même violence a été faite et qu'en plus, elle était un peu plus cachée peut-être aux yeux du monde. Et donc, j'en étais très, très frappée. J'étais très frappée par cette jeune femme qui dit « J'avais honte de marcher à côté de ma mère. »
Son témoignage
le mécanisme qui lui a été inculqué, c'est terrible.
Mira Kamdar.
Bah oui, le Canada, c'est notre bon voisin du Nord.
Mais c'est pas ça du tout.
en l'écoutant, j'ai vraiment pensé au traitement exactement pareil des autochtones en Australie, par exemple, où les enfants ont été arrachés de leurs parents, mis dans des écoles, des pensionnats pour justement tuer l'autochtone en eux, comme elle dit. Aux États-Unis, la même chose. Et cette violence qui a été faite au cours de maintenant quelques siècles et qui finalement, enfin, aujourd'hui, quelques personnes, dans l'occurrence cette femme, qui trouvent par la force et dans l'amour et la douceur, j'ai trouvé, qui essaie de réconcilier, donc prendre ce qui est mieux, comme elle dit, dans les deux cultures dont elle hérite. Et c'est très, très touchant.
Dire et tout, oui, et en fait, quelque chose à dire.
Ce qui est dangereux, le reportage est génial en soi, ce qui est dangereux, c'est le fait que des jeunes générations ne soient pas au courant de ce qui s'est passé. Ça, je trouve ça que c'est assez impressionnant. Ça me fait penser à une vidéo l'année dernière et tout, d'un jeune qui faisait face à un autochtone, c'est aux États-Unis, un jeune pro-Trump qui manquait de respect à un...
C'est bien pour Trump. C'est très bien.
Trump qui manquait de respect à un senior, un autochtone, mais voilà, c'était frappant à quel point c'était vraiment un
génocide
quoi.
Culturel dont parle la
donc c'est super important que les jeunes soient mis au courant.
Merci à vous, nos tchatcheuses préférées. On reçoit tout de suite notre journaliste.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
On est entre nous, tchatcheuses, et Steven Jambo nous a rejoint, journaliste à RFI. Il vient nous parler du concours Mondoblog. Bonjour Steven.
Salut Penaïs, salut à toutes les voisines et tous les voisins.
Alors c'est quoi Mondoblog ?
Alors Mondoblog, on le rappelle, c'est la plus grande communauté de blogueurs francophones au monde. 750 blogueurs et blogueuses. C'est à la fois un média, mais aussi une école, puisque nous accompagnons au quotidien ces blogueurs pour leur apprendre des choses et progresser ensemble. Ça existe depuis bientôt 10 ans. Et c'est porté avec passion par l'équipe de l'atelier des médias de RFI.
Et un concours qui vient d'être lancé.
Voilà, un concours qui est ouvert jusqu'au 1er mars. Pour participer, il faut se rendre sur concours.mondoblog.org, cliquer sur l'image, remplir le formulaire et là, appliquez-vous. Hein. Bon, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, même aux débutants et débutantes. Le thème choisi cette année, c'est l'environnement.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Steven, le délai pour postuler pour ceux qui voudraient être mondoblogueurs?
Ah ben, il ne faut pas du tout attendre, hein. C'est jusqu'au 1er mars, donc sur concours.mondoblog.org. Et Penaï, tu ne m'en voudras pas de préciser aux auditeurs qu'il y a 8 ans, tu étais toi aussi mondoblogueuse, puisque tu as été sélectionnée.
Je fais partie des ancêtres de Mondoblog.
Et il y a également Diretou en plateau, Carter, qui elle Carter. Aussi a été mondoblogueuse. Donc ça fait plaisir de voir.
Est-ce
que,
qu'on voilà. peut revenir?
Mais bien
ouais,
sûr
ben, voilà.
Mais on n'est pas parti.
Vous n'êtes pas parti. La plateforme est toujours ouverte et là, l'idée, c'est de recruter des dizaines de nouveaux blogueurs et de nouvelles blogueuses pour participer donc à mondoblog.org.
Merci Steven et merci à nos trois tchatcheuses Diretou Diallo, blogueuse guinéenne et fondatrice de la plateforme guinéenne du 21e siècle. Et Anna Navarro Pedro, merci à vous aussi, journaliste portugaise, et Mira Kamdar, journaliste américaine. Merci à toutes les trois d'être venues nous parler de ces sujets super intéressants. Et j'espère qu'on vous reverra bientôt sur dans une nouvelle émission, les tchatcheuses.
Je peux le dire, INSEE. INSEE.
Merci.
INSEE, je vous dis, dans ces camps, ben chien, ouais, vous dites INSEE. Voilà, c'est ça. Les voisins et les voisines, quant à vous, merci de nous écouter et n'oubliez pas de nous suivre et de nous écouter encore une fois via vos applications podcast préférées, Google Podcast, Podcast Addict, iTunes. Et lundi, nous aurons Grandir Noir en France, comment se reconstruire. L'universitaire Maboula Soumaoro s'interroge sur l'identité noire en France. Pourquoi l'ascension sociale reste aussi difficile quand on est noir en France? Pourquoi le racisme semble-t-il si banal? Je pense que c'est un sujet que vous aurez trouvé intéressant, chère tchatcheuse. Donc, nous en parlerons avec d'autres invités. Merci à toute l'équipe qui a participé à la préparation de cette émission. Cécile Lavlo, Delphine de Dianous, Alix L'Hospital et Nicolas Benita. Restez connectés sur RFI et l'information revient tout de suite.
Mondoblog,